À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre Retrouver la source intérieure, animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Vivre de tout son être, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Peut-être plus particulièrement pour des chrétiens, mais pas uniquement pour des chrétiens. Nous avons déjà vu que le christianisme, quand il est fidèle à l'incarnation, quand il est fidèle à cette réalité que Dieu a voulu se faire homme, donnant une immense dignité à l'humanité dans toutes ses dimensions, eh bien, le christianisme alors propose à l'homme, à la femme, de se déployer dans toutes ses dimensions. Le corps, le cœur, l'esprit, l'intelligence, sa vie relationnelle, sa place dans le cosmos, tout cela sous le regard de Dieu et à la suite du Christ. Peut-être qu'on a trop longtemps oublié qu'en prenant la condition humaine, Dieu a assumé en Jésus-Christ toute notre condition humaine, excepté le péché. Le péché, c'est-à-dire la fermeture à l'amour, lui qui n'était qu'amour. Cela signifie, de façon très concrète, qu'il a vécu 9 mois dans le sein d'une femme, qu'il a été allaité, qu'il a été bébé, qu'il a appris à marcher, que c'était un gamin qui courait sur les collines de Galilée, qui a dû garder les moutons, aider ses parents. Il était ado, un jeune homme dans la force de l'âge, puis un adulte, assassiné d'ailleurs en pleine force de l'adulte. Il a bien connu, comme nous, la fatigue, la tentation, la peur, la colère, tout comme la tendresse, l'émerveillement. Oui, Jésus a connu aussi une évolution spirituelle qui lui a demandé de parcourir un chemin de maturité, pour réaliser qu'il était destiné à vivre une relation totalement unique à son Père. Ce n'est que petit à petit qu'il a réalisé cela. Et d'un point de vue psychologique, il a cherché quelle était son identité singulière. Et c'est sans doute pour cela que déjà à l'âge de 12 ans, il posait tant de questions au temple, aux sages du temple, dont il commençait à comprendre que c'était la maison de son père, comme il dit en répondant à ses parents qui étaient à sa recherche. Et puis, il a dû faire face à un grand succès de foule quand il était perçu comme un thérapeute extraordinaire. Plusieurs fois dans les évangiles, il est dit, les personnes qui le touchaient étaient guéries et de grandes foules se massaient autour de lui. Et aussi parce que c'était un orateur fascinant, utilisant un langage très proche des gens, qui touchait profondément les cœurs. Il a même dû fuir quand on a voulu le faire roi, parce qu'il ne voulait pas être roi à la manière humaine. Mais aussi plus tard, de nombreuses fois, il a dû s'échapper parce qu'on a voulu le lapider. Jusqu'au jour où, son heure étant venue, il a accepté la croix. Et alors, il a vécu les peurs du condamné à mort, les souffrances du torturé, l'abandon de l'agonisant, avant de dépasser et de vaincre la mort réelle et totale qu'il avait vécue en ressuscitant. Donc vivre de tout son être avec le Christ, c'est à la fois nous déployer dans toutes nos dimensions, tout en découvrant petit à petit notre identité profonde. Et c'est aussi, comme lui, assumer les limites de la réalité humaine, sans refuser la faiblesse, la mort. Vivre de tout son être ne signifie pas être en permanence dans un état de béatitude parfaite et de paix. Mais c'est prendre en compte toutes les dimensions de notre être en choisissant sans cesse la vie, en dépassant nos peurs et nos replis sur nous-mêmes. C'est donc un chemin de connaissance de soi, un chemin de sagesse, un chemin spirituel, vécu pour un chrétien dans la docilité à l'esprit qui nous révèle petit à petit notre idée, notre identité d'enfant de Dieu. Bref, vivre de tout son être, c'est être pleinement humain parce que pleinement chrétien. Et je l'ai déjà dit, dans cette perspective où nous reconnaissons la personne du Christ comme le modèle de ce que peut être l'homme quand il se déploie de tout son être, nous pouvons dire que plus nous nous humanisons de tout notre être, plus nous nous divinisons. Créés à l'image de Dieu, nous grandissons quotidiennement en ressemblance avec lui. Mais vivre de tout son être serait-il réservé aux chrétiens? Bien sûr que non. D'autres chercheurs de Dieu, d'autres quêteurs d'absolu, n'auraient-ils pas de vraie vie intérieure, un vrai chemin spirituel? Nous savons que l'Esprit de Dieu a de multiples visages et une liberté totale d'action à travers le cœur des personnes, à travers la richesse multiforme des cultures et la diversité des religions et des spiritualités. Des incroyants ou des personnes appartenant à d'autres traditions spirituelles ou religieuses sont aussi appelés à vivre de tout leur être et à se déployer dans toute leur humanité, en parcourant d'autres chemins d'intériorité, d'autres spiritualités, où, d'un point de vue chrétien, l'Esprit du Christ n'est pas absent. Alors qu'est-ce que cela veut dire, vivre au niveau de nos profondeurs? Peut-on définir la vie intérieure? Nous savons que nous sommes tous traversés par des sentiments, des pensées, des sensations qui résonnent plus ou moins fort en nous. Et certains d'entre nous qui sont plus conscients de ce qui bouge, de ces mouvements qui les habitent, sont capables de les identifier, de les interpréter, de les apprivoiser. Pour d'autres, c'est moins facile. Mais personne ne vit pour autant dans un état d'indifférence ou d'insensibilité totale. Parfois, il faut un grand événement difficile, dur, pour que cette sensibilité se réveille, pour que les questions naissent. Alors il n'est pas nécessaire de croire en Dieu, ou même d'appartenir à une religion, pour avoir une vie intérieure. Elle fait partie de la grandeur de l'être humain, qui est un être de questionnement. Et sans doute, c'est un être de questionnement parce qu'il est le seul être qui sait qu'un jour il va mourir. Parfois, source de souffrance, cette disposition crée en nous des angoisses, mais c'est aussi une grande richesse, car elle nous aide à assumer plus consciemment ce que nous vivons. Cette présence à soi, à des questions essentielles, elle est liée au besoin que nous avons de donner sens à notre histoire. Qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Pourquoi l'amour? Pourquoi la mort? Pourquoi le mal? Pourquoi toutes ces fragilités? Et pourquoi suis-je la personne que je suis aujourd'hui? Ce mystère que je suis pour moi-même. Ces interrogations nous sont familières. Et nous allons essayer de les considérer non pas de façon intellectuelle, mais en essayant d'être à l'écoute de ce qui vit et s'exprime en nous. Et je vous invite, vous qui êtes à l'écoute, à être attentif à ce que vous ressentez dans vos profondeurs lorsque vous entendez ce que je vous dis maintenant. Parce que je vais vous inviter à vous arrêter pour entrer dans vos profondeurs. Souvent, nous fouillons les questions quand elles sont trop difficiles. Surtout quand nous ne trouvons pas de réponse satisfaisante. Ou quand elles sont trop douloureuses pour être considérées en face, à cause peut-être de souvenirs qui nous habitent. Mais il peut arriver qu'un jour nous ressentions le besoin de nous arrêter. Et c'est peut-être l'occasion d'une épreuve, d'une rencontre importante, peut-être une rencontre amoureuse, ou d'une sorte d'illumination intérieure, à l'occasion d'une expérience esthétique, dans la nature, en écoutant de la musique, et tout d'un coup, nous nous arrêtons. Et ça peut être l'occasion de rentrer en nous-mêmes et de rejoindre nos zones les plus profondes. Alors je n'entre pas dans de grandes théories psychologiques, je ne parle pas de faire une psychanalyse, je dis simplement que nous avons la mémoire d'événements qui ont laissé des traces en nous, parfois des traces obscures, parfois des traces de lumière, mais qui reviennent à la surface lors d'occasions plus importantes. Et c'est à ce moment-là que nous nous intériorisons, que nous nous interrogeons au niveau de nos profondeurs, que nous rentrons dans ce que j'appelle le cœur profond, ce lieu de notre intimité, ce lieu de notre mystère, ce lieu de notre quête d'un sens, ce lieu où existe une source de sens, une source de vie, une source spirituelle, notre source intérieure. Et c'est pourquoi je vous propose de partir à la découverte de cette source intérieure, même si vous n'êtes pas pour le moment sur un chemin religieux ou spirituel. Ça peut être en partie une expérience psychologique, ou un travail de conscience de soi, une attention à un ressenti, mais c'est découvrir que je suis un être d'intériorité, et que cette intériorité n'est pas qu'une question philosophique. Je dirais que la dimension spirituelle proprement dite de notre vie intérieure commence lorsque je comprends qu'au plus profond de moi murmure une source et que celle-ci me renvoie à un au-delà de moi-même. J'ai commencé cette émission en posant la question « Qu'est-ce que vivre de tout son être ?» Et maintenant, je poursuis en essayant de répondre à une question qui est dans le fond dans la même ligne. C'est « Qu'est-ce que la vie intérieure ?» Et j'ai commencé en disant que on n'a pas besoin de croire en Dieu ou d'appartenir à une religion ou à une spiritualité pour avoir une vie intérieure. Toute personne qui réfléchit, qui a une sensibilité, a une vie intérieure. Mais je pense qu'on peut parler de vie spirituelle lorsque ma vie intérieure s'ouvre à un au-delà de ce que je peux en dire dans une approche purement philosophique. Une ouverture à une transcendance, à un au-delà de moi, à une profondeur, quelle que soit l'expression que l'on emploie. Je pense effectivement que c'est dans cette profondeur du cœur, ce cœur profond dont je parlais tout à l'heure, que je peux trouver une réponse, là où se trouve notre source intérieure, source de vie, source de spiritualité, source de sens, lieu de mon identité. J'emploie l'expression de source, d'autres parleront de flamme, d'autres parleront d'énergie. Peu importe l'expression pour le moment, nous verrons plus tard le sens chrétien qu'on peut lui donner. Cette réalité est tellement universelle, est tellement riche, qu'il est normal que les cultures et les religions du monde aient cherché à la définir, chacune à sa façon. Je crois que lorsque l'on est engagé dans une quête spirituelle, on constate que ce que l'on ressent ne vient pas seulement de nous, de notre surmoi, de notre inconscient. Bien sûr, une approche purement psychologique pourra toujours essayer de faire le tour et même d'épuiser le sujet. Mais quand soi-même on a fait une vraie expérience spirituelle, quand on a l'audace de dire cela, parce qu'il faut le dire avec beaucoup d'humilité, il faut bien reconnaître que les sciences humaines ne peuvent pas épuiser cette dimension, cette richesse, cette transcendance de l'expérience de l'au-delà dans nos profondeurs. Et là, nous voyons que ce n'est pas simplement non plus la voie de la conscience morale, et ce n'est pas non plus le pur fruit de notre imagination, même si tout l'imaginaire, tout le symbolique en nous est sollicité dans une démarche spirituelle. Mais nous commençons un chemin spirituel lorsque nous nous sentons reliés à un au-delà qui est aussi un en-deçà, une profondeur. Et dans les traditions hindouistes, il existe un texte saint qui vient des Upanishads, qui sont des textes qui ont été rédigés entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et dans une Upanishad, nous lisons « Dans le centre du château de Brahman, qu'est notre corps, il y a un petit sanctuaire en forme de fleurs de lotus, et dedans, on peut trouver un petit espace. Nous devrions chercher qui y demeure. » et désirer le connaître. Et elle ajoute à ce sujet que dans ce petit espace est aussi contenu tout l'univers. Parce que dans le vrai soi se trouve l'univers, pour la tradition hindouiste. L'atman, c'est la partie du brahman qui est dans la personne, dans l'être humain, le brahman incluant tout le cosmos. Voilà une approche hindouiste, mais nous pouvons prendre les pères de l'Église et nous pouvons entendre par exemple saint Ignace d'Antioche qui juste avant son martyre dit « Il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière, mais une eau vive qui murmure vient vers le Père. » Cette eau vive qui murmure en nous, cet espace dans les profondeurs de notre cœur où nous avons à découvrir par qui nous sommes habités. Tout cela, ce sont des thèmes profondément traditionnels. L'image du cœur, l'image du rocher, l'image de la source. Et ce n'est pas pour rien que tant de lieux de pèlerinage se situent près d'un rocher, d'une source, en lien avec un personnage qui était un homme, une femme de cœur, de compassion. Dans la vie, il nous arrive un jour ou l'autre l'impression d'être sur un chemin face à un croisement. Et là, il nous faut choisir entre le divertissement, c'est-à-dire une tentative de ne plus penser, de ne plus ressentir, d'oublier, une tentation de fuir le passé, de se lancer dans une fuite en avant. Et nous savons combien de personnes sont dans le divertissement autour de nous. Mais je ne veux pas les juger parce que peut-être que pour le moment, c'est leur façon de survivre. Et puis l'autre alternative, c'est celle d'un choix. Un choix de vie. M'arrêter, reconnaître la réalité telle qu'elle est, la nommer et voir ce que je peux faire pour grandir dans la vie avec cela. Pouvoir reconnaître, oui, pour le moment, je suis douloureux, ou je suis divisé, ou je me sens éclaté dans tous les sens, ou bien je suis en recherche, dans l'obscurité, ou bien je sens qu'il faut que je parte à la découverte de qui je suis. C'est un chemin qui n'est pas facile de parcourir seul. Et personnellement, je suis frappé par le nombre croissant de personnes qui demandent des accompagnements spirituels. Pas simplement une aide psychothérapique. Nous le savons, c'est un truisme de dire que les médecins et les psychologues ont remplacé les prêtres. Mais il faut bien se rendre compte que beaucoup de gens qui ont fait un chemin psychologique parfois très sérieux, avec des psychothérapeutes très valables, à un moment se disent « il me faut quand même aller en eau profonde, aller plus loin ». Et là, ils ont besoin d'un guide, d'une référence sur le plan spirituel. Alors pour ceux qui peuvent faire ce choix, soit en étant accompagnés par une personne, soit en partageant dans des groupes, je les y encourage. Car il est très difficile de voir clair dans sa propre vie si l'on n'a pas l'occasion à un certain moment de se dire, tout simplement, face à quelqu'un qui écoute avec une oreille bienveillante et un regard positif. Quelqu'un qui peut nous renvoyer ce qu'il y a de plus beau en nous et peut-être nous poser la question qu'il nous faut entendre aujourd'hui, parce que c'est peut-être cela précisément que je fuis et qui m'empêche d'exister aujourd'hui. Il y a beaucoup de façons de rejoindre ces profondeurs. Il existe toutes sortes de démarches, toutes sortes de spiritualités, mais personnellement, il me paraît essentiel, pour que cette démarche soit féconde, que nous prenions compte de tout notre être dans toutes ses dimensions. Que nous prenions en compte tout ce qui fait notre profondeur et notre richesse d'un point de vue psychique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue corporel, le tout étant unifié, transfiguré par le chemin spirituel. C'est important parce que ces dimensions psychiques, intellectuelles, spirituelles, corporelles sont en interaction continuelle. Et nous le savons, indépendamment de toutes les recherches qui ont été faites aujourd'hui en psychosomatique, nous savons très bien que notre corps est une mémoire. Et que notre corps aussi influence sur notre état d'esprit, sur notre morale, sur l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais que notre vie spirituelle aussi a quelque chose à dire là-dedans. Et nous savons à quel point dans la mémoire du corps et dans la mémoire du cœur, il peut exister des blessures et des cicatrices qui nous empêchent de vivre. Et d'un autre côté, nous avons aussi été nourris par tout l'amour que nous avons reçu, même si c'était un amour imparfait, même si c'était un amour qui parfois nous a ratés. Mais tout cela est en nous. Et donc partir à la recherche de toutes ces dimensions de notre être, en étant conscient qu'elles sont en interaction constante, c'est partir à la découverte de qui nous sommes dans notre singularité, dans notre unicité. Je suis un être unique et irremplaçable. Je suis un corps, je n'ai pas seulement un corps. Mon corps fait aussi partie de mon identité. Donc arriver à ce degré de profondeur, de connaissance de mon être, où prenant en compte toutes ces dimensions, je peux grandir dans un chemin d'unification et dans un chemin de maturation spirituelle. Et c'est très important, parce que un chemin spirituel est toujours singulier, unique, je vous l'ai déjà dit dans d'autres émissions. De même qu'une relation est toujours unique et singulière. On peut avoir les mêmes parents, on peut être plusieurs enfants, mais chaque enfant aurait une relation unique avec chacun de ses parents. C'est pareil dans un chemin spirituel. Il n'y a pas deux itinéraires spirituels qui sont pareils et qui sont comparables. Et surtout, évitons de comparer les itinéraires spirituels, surtout le nôtre avec ceux des autres. Alors nous engager dans ce chemin où nous découvrons qui nous sommes à travers aussi notre corps et notre affectivité me paraît très important. Et c'est pourquoi, dans la suite des émissions, je vais vous inviter à partir à la découverte de ce que votre corps et une certaine façon de prier avec tout votre être peut vous révéler de votre identité profonde dans toutes ces dimensions de notre incarnation. Corps, âme, esprit, être unique et irremplaçable, désiré de Dieu, homme, femme de désir. Et c'est d'autant plus important pour nous occidentaux, qui très souvent ne sommes pas conscients suffisamment de la pluralité des niveaux de notre personne et qui ramenons la plupart du temps les problèmes à des questions de raison, de découpage, de simplification, en oubliant le mystère. C'est à cela que je vous inviterai à réfléchir la prochaine fois. Thank you.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.